comme une bête enfermée, je suis folle. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette journée, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers des humanisés? La souffrance et le supplice sont vraiment double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, où je démolirai vos pauvres et barons. Fini le rigole.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Voilà, donc c'est Bruit de tôle qui commence. Aujourd'hui, à ce sommaire de l'émission, nous avons deux invités de l'Anticra Toulouse. Et donc, il sera question des centres de rétention qui emprisonnent les personnes étrangères qui n'ont pas les papiers valides. En deuxième partie, on parlera des conditions d'enfermement en France. On reviendra sur la révolte des prisonniers d'Eton en Savoie, établissement qui est à la fois un centre de détention et une maison d'arrêt. Puis, parlerons des empêchements à obtenir l'aide juridictionnelle et sur aussi une méthode dite mexicaine qui permet aux policiers français de se défiler de leurs responsabilités en cas de violence de leur part. Et puis, une information internationale autour des prisonniers palestiniens qui sont en grève de la faim. On finira par une annonce. Donc, l'émission, je vous le rappelle, est en direct le jeudi de 19h à 20h. Et vous pouvez, si vous avez une information ou une remarque à faire, téléphoner pendant ce direct, donc le jeudi de 19h à 20h et de préférence pendant les pauses musicales, au 05 61 53 36 95. Voilà, donc c'est parti pour l'instant pour une pause musicale.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world. Baby, let me show you things. 'Cause Time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand. Make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time. And yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger, oh, 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 oh. I remember
démarre donc l'émission. On va donc laisser la parole à nos invités. D'abord, pour nous expliquer un peu, c'est quoi votre collectif Anticra ?
Bonjour. Toulouse Anticra est un collectif qui milite pour l'abolition des prisons pour étrangères et étrangers, qu'on appelle CRA, donc Centre de Rétention Administrative, et contre les violences et le racisme d'État. Il y a du bruit là, non ?
Ouais, un petit problème technique.
Ça sautait dans les oreilles.
C'est bon.
J'ai coupé, on va voir.
Donc l'objectif, c'est de faire sortir les témoignages des prisonnières et des prisonniers, faire connaître leur lutte, faire savoir ce qui se passe dans ces tôles. On soutient également leur lutte en les faisant connaître. Pour savoir un petit peu, pour lire les témoignages et nous suivre, voire même nous rejoindre, on a un blog qui est toulouseanticra.noblogs.org et on est également sur les réseaux sociaux.
Et ce qu'on peut rappeler pour commencer, c'est ce que sont les CRA, les centres de rétention administrative. Donc comme ça vient d'être dit, ce sont des prisons pour étrangères et étrangers. Il y en a 24 en France. Il n'y a pas que les CRA d'ailleurs, il y a aussi des LRA, des locaux de rétention administrative, mais sur lesquels on a beaucoup moins de données, qui sont des lieux beaucoup plus petits et encore plus opaques.
Ils sont à l'intérieur des commissariats, non ?
Ça peut être, par exemple, à l'intérieur des commissariats. En fait, ça peut même être décrété très temporairement. Le préfet peut décider de créer un LRA pour 24 heures, 48 heures, uniquement parce que les CRA sont débordés. Mmh. Donc dans ces prisons sont enfermés les étrangères, les étrangers, à la suite de leur sortie de prison, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un contrôle routier, par exemple. Et l'objectif officiel d'ECRA, c'est l'expulsion. Dans la pratique, on enferme à tout prix, c'est-à-dire qu'on enferme même les personnes qui ne sont pas expulsables, les personnes qui sont malades et qui n'ont rien à faire dans un lieu d'enfermement, les familles, etc. Ce sont des lieux gérés par la police aux frontières, où les conditions sont assez terribles, où il y a des violences policières, des humiliations, des provocations quotidiennes, la nourriture est dégueulasse, les gens ont faim parce qu'ils peuvent pas emmener de nourriture dans les cellules. Il y a des difficultés d'accès aux produits d'hygiène, aux vêtements, il y a des refus de soins, le désœuvrement est total. Voilà, les conditions sont très dures.
Il n'y a pas de cantinage, on ne peut pas cantiner.
On peut.
Alors,
Des distributeurs, mais encore une fois, on ne peut pas ramener de nourriture dans les chambres, dans les cellules.
Et j'avais une question, parce qu'on dit que c'est géré par la PAF, donc la police aérienne et frontière. On pourrait penser que ne sont enfermés que des gens arrêtés à l'aéroport ou aux frontières. Or, quand ils sont arrêtés par des flics, des gendarmes, qui les remettent aux mains de la PAF, c'est ça ?
Oui, ou par la PAF elle-même. En fait, les contrôles peuvent avoir lieu autour de la frontière, mais peuvent avoir lieu aussi dans les aéroports internationaux, les gares internationales, comme la gare de Toulouse-Matabiau, puisqu'elle va vers l'Espagne, ou dans même certaines stations de métro qui sont considérées comme faisant partie de ces zones-là. Ça peut être aussi des contrôles d'identité suite à des réquisitions du procureur, qui décide qu'on doit surveiller sur telle zone de la ville pendant tant de temps. Faire des contrôles d'identité, donc à ce moment-là les policiers peuvent le faire, sachant qu'il y a beaucoup de ces réquisitions du procureur qui ont pour unique objet de trouver des personnes qui n'ont pas leur papier.
Mmh. Illégal, quoi, comme on dit, personnes illégales.
Voilà, des personnes en situation régulière, comme ils disent.
Alors, pourquoi ils disent ça ?
En situation irrégulière ?
Ah oui, irrégulière. Oui, d'accord, oui. Mmh. Et ensuite, pour savoir combien, vous avez dit il y en a 24, et combien de personnes à peu près enfermées, bien que ça tourne, et combien de temps on y reste là-dedans ?
Alors, depuis 2019, l'enfermement dure jusqu'à 90 jours.
Plus de 3 mois.
3 mois. 3 mois, sachant que la durée moyenne, je crois, est autour d'une vingtaine de jours, l'enfermement. Mais c'est une moyenne, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des personnes qui sortent au bout de 2 jours, il y en a qui sortent au bout de 90, si jamais elles n'ont pas été expulsées, évidemment, puisque l'objectif officiel, c'est toujours d'expulser. Il y a à peu près, si on donne quelques chiffres, 2020 est un peu particulier, parce qu'avec la pandémie de virus, il y a eu beaucoup moins de personnes enfermées en 2020. En France, il y a eu 28 000 personnes enfermées, dont 13 000 en métropole. Et le reste est en Outre-mer, mais essentiellement à Mayotte. La moitié, en fait, des enfermements en CRA ont lieu à Mayotte.
Ah, c'est énorme, quand même. Parce que c'est petit, Mayotte.
Oui, c'est énorme.
Donc, il faut préciser que hors Covid, c'est environ 50 000 personnes enfermées par an.
C'est énorme. Hein.
Oui. Ouais.
Voilà. Et après, ce qui se passe aussi, c'est qu'une personne, là, quand tu dis, elle peut sortir au bout de 2 jours ou au bout de 3 mois, mais si elle est lâchée dans la nature et qu'elle est à nouveau arrêtée parce qu'elle n'a toujours pas ses papiers, rebelote. Se renouvelle, on peut être.
Exactement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on reste en situation irrégulière. Sans grande perspective, parce que quand on a une OQTF...
C'est une obligation de quitter le territoire français.
Une obligation de quitter le territoire. Il faut savoir que quand elle est donnée par la préfecture, elle est valable 1 an, mais la préfecture peut la renouveler. Une interdiction de territoire français, ça peut être entre 3 et 10 ans. Donc, effectivement, les personnes restent en situation irrégulière.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut être 3 mois en CRA, plus 3 mois. C'est ça que je vous pose la question.
C'est pratiquement ça.
C'est pas 3 mois maximum, c'est 3 mois continu.
C'est 3 mois en continu.
D'accord,
si l'expulsion n'a pas lieu au bout de 3 mois, les personnes sortent parce qu'on ne peut pas les maintenir enfermées plus de 3 mois. Mais ce qui vient d'être dit, c'est que ce qui ne disparaît pas, c'est leur obligation de quitter le territoire, ou leur interdiction de territoire, leur interdiction de retour. Il y a plein de raisons de ne pas avoir le droit de rester. Et alors il y a une trêve de 7 jours. En fait, quand on sort du centre de rétention, on a le droit à 7 jours pour procéder soi-même à son auto-expulsion. Et au bout de 7 jours, on est susceptible, à la merci d'un contrôle par exemple, de retourner au CRA, sachant que comme les obligations de tel territoire, les OQTF, sont délivrées dans la plupart des cas automatiquement avec une interdiction de retour de territoire. C'est le non-respect de l'interdiction de retour de territoire est passible d'une peine. Donc les gens ne retournent pas forcément au CRA, parfois partent en prison, font plusieurs mois de prison, et évidemment, à la sortie de prison, ils retournent au CRA.
Donc c'est un phénomène qui est de plus en plus... qui est en train de s'aggraver, justement, le lien entre la prison et le CRA. Parce que, comme ça vient d'être dit, il y a des mesures d'éloignement qui relèvent du pénal, et puis en même temps, il y a aussi, comme on a pu, vous en avez parlé, je crois, la semaine dernière, la question des tests PCR qui ont donné lieu aussi à de l'enfermement, 3 mois, souvent c'est 3 mois de prison ferme.
Parce que c'est obligatoire, c'est ça, c'est...
Alors l'histoire, elle est celle-ci, c'est qu'en fait, pendant cette pandémie, pour pouvoir expulser, certains pays demandent que leurs ressortissants aient effectué un test PCR. Et pour résister à cette expulsion des personnes, refusent le test PCR. Et là, ce qu'ont fait les préfectures, enfin, et les juges, certaines, en tous les cas, certains, la majorité des juges, enfin beaucoup de juges, on va dire, ont puni ce refus de test par, en général, en moyenne, 3 mois de prison.
Mais ça, c'est dans la loi, c'est un délit pénal, ça ?
Alors non, justement. Donc en fait, ils ont associé ce refus-là à un refus d'être expulsé. Et ça, c'est dans le CESEDA, hein, dans le droit des étrangers.
Le droit des étrangers, c'est un drôle de mot.
Oui, c'est un droit d'exception, exactement, le CESEDA, le code d'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est l'héritier des codes coloniaux, comme le code de l'indigénat. Les liens sont très clairs, hein, parce que le code de l'indigénat, c'était l'enfermement administratif, comme aujourd'hui, la liberté de circulation, l'expulsion des indigènes, voilà, et hier, et des étrangers et des étrangères aujourd'hui. Voilà. Donc pour revenir à cette histoire de PCR, de test PCR, justement, il y a eu énormément d'enfermement de personnes emprisonnées. Et donc, comme il y avait certains juges qui, quand même, n'enfermaient pas spécialement, pour pallier à ce détournement de... Parce que c'était un détournement de la loi, en fait, d'enfermer les personnes pour refus de test. Et Le gouvernement a proposé une loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel dernièrement, là, le 5 août, pour que ce soit inscrit dans le CESEDA, qu'il y ait justement que ce soit puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, exactement comme le refus d'embarquer, en fait, comme le refus d'expulsion. C'est le même temps. Donc voilà, maintenant c'est légal. Voilà.
Et là, c'est pas anticonstitutionnel, ça ? Mais enfin, il n'y a personne pour...
C'est passé devant le Conseil constitutionnel
qui a validé.
Qui a trouvé que c'était tout à fait juste et normal. Voilà. Mais ça,
ça arrive dans l'histoire du droit des étrangers. C'est quelque chose de très récurrent que des pratiques soient illégales, qu'elles soient pratiquées... Par les juridictions et qu'elles soient finalement avalisées par la suite, qu'elles deviennent légales. Et un exemple qui a duré longtemps, un autre exemple de ça, c'est la garde à vue. Et pendant très longtemps, la garde à vue a été utilisée pour retenir les gens le temps de les mettre, de procéder à leur expulsion, que le préfet procède à leur expulsion et les place en centre de rétention. Et or, la garde à vue est une procédure judiciaire. On prive les gens de liberté le temps de collecter des preuves parce qu'on les soupçonne d'avoir commis un crime ou un délit. Et donc, voilà, depuis la création des centres de rétention en 81 jusqu'en 2013, on utilisait la garde à vue. Et finalement, donc, plus de 30 ans plus tard, a été créée une retenue administrative pour vérification du droit au séjour qui fonctionne maintenant comme une garde à vue parce qu'elle dure 24 heures, les personnes sont privées de liberté et ça laisse le temps à la police de faire ses démarches administratives. Pour revenir un petit peu sinon sur la question de la prison, puisqu'on en parlait avec le test PCR, que ce soit pour des refus de test PCR ou pour d'autres raisons, d'une part, ou pour la question du renforcement de la double peine, les étrangers effectivement font beaucoup d'allers-retours entre prison et CRA, en circuit fermé ou quasi fermé. Parfois ils ne sortent pas. Un exemple pour le test PCR, ce qui est arrivé dans certains CRA, c'est que les personnes au 90e jour passent en comparution immédiate suite à un refus de test et écopent comme peine d'une interdiction de territoire français, une ITF, qui est une condamnation pénale. Et du coup, ce nouveau motif, cette ITF, était un nouveau motif de placement en centre de rétention. Et donc, ils retournaient en centre de rétention, éventuellement pour 90 jours. Ce qui veut dire que voilà, maintenant, certains peuvent faire 180 jours comme ça, sans sortir, ne serait-ce même qu'une semaine.
Et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de voix qui s'élèvent contre ça, quand même.
Ouais. Franchement. Non, c'est clair. D'ailleurs, la question de l'enfermement des personnes étrangères, elle manque vraiment de solidarité à l'extérieur. C'est quelque chose qui a un problème. Et c'est ça en fait. C'est l'enfermement, comme c'était dit tout à l'heure, n'est plus utilisé uniquement pour l'expulsion, mais c'est vraiment pour punir, pour mater, et on est en train de rentrer dans une ère de plus en plus où l'enfermement va de plus en plus être la méthode, hein, pour contrôler les populations, notamment les personnes sans papiers.
Surtout qu'ils pourront changer de nom, parce que rétention administrative, ou alors ça fait penser, on en parlera en fin d'émission, à Israël, qui fait la même chose, où il enferme des gens sans aucune raison, là, tout simplement parce qu'ils sont palestiniens. Ils appellent ça rétention administrative.
C'est ça.
Et l'État a tous les droits, quoi.
Oui, c'est ça.
Pour revenir sur le lien entre CRA et prison, il faut noter que il y a de plus en plus de personnes qui sortent de prison, qui rentre en CRA, et c'est même en 2020 devenu le premier motif d'enfermement dans le CRA, le fait de sortir de prison, devant les contrôles d'identité ou les autres choses. Toulouse est à un des plus forts taux de personnes qui sortent de prison.
Mais est-ce que vous pensez pas que ça peut être lié à la pandémie, que du coup, comme ils savaient qu'ils pouvaient pas expulser les gens, est-ce qu'ils ont moins fait de contrôle ou...
c'est lié en partie à la pandémie, parce que pendant les confinements, par exemple, les gens n'étaient pas censés sortir de chez eux. Donc on peut imaginer que les personnes qui avaient des soucis de papier se protégeaient en ne sortant pas. Mais pas que, parce qu'en fait, en 2019, il n'y avait pas de pandémie, et déjà, il y avait une augmentation des sortants de prison qui rentraient en CRA.
Je pense pas que ça va s'améliorer quand on voit les déclarations qui sont faites par le président lui-même sur l'Afghanistan.
Non, voilà.
Il n'y a aucune honte, quoi.
L'objectif, c'est de ne pas laisser les personnes dehors, donc de ne pas les laisser sortir, et donc de les faire tourner entre les CRA et la prison. Alors pour la double peine, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, pour des raisons sécuritaires, le ministère de l'Intérieur rappelle régulièrement au préfet de renforcer les protocoles d'expulsion sous prétexte que les personnes représentent une menace grave pour l'ordre public.
Sans preuve.
Là, c'est pas une question de preuve, puisque on présume qu'ils sont une menace. Donc c'est pas parce qu'ils ont causé un trouble à l'ordre public, c'est on suppose qu'ils peuvent, dans le futur, poser un trouble à l'ordre public. Alors les préfets utilisent cette notion très floue de menace pour l'ordre public, justement pour procéder à des expulsions. Même pour les petits délits, pour des vols simples, pour des conduites sans permis, tout devient menace pour l'ordre public.
À partir du moment où on est étranger, on devient une menace pour l'ordre public à partir du moment où on a fait de la prison. En gros, c'est ça.
La moindre infraction.
La moindre infraction.
Enfin, étranger, on pourra quand même préciser, étranger pauvre. Parce que c'est quand même ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des étrangers riches qui, eux, dès qu'on a les moyens et dès qu'on est riche, peu importe, là, on n'est plus un danger pour quelle que soit notre religion, quelle que soit la couleur de la peau, quoi. C'est vraiment quand même un problème de classe très net.
De race et de classe, oui.
De race et de classe, oui.
Oui, justice de classe et de race, oui. Ouais.
Et quand même, alors on a dit, il y a très peu de soutien, mais on en a parlé, nous, il y a 15 jours. Les gens se révoltent un petit peu quand même, ils en ont un peu marre. Et il y a des révoltes quand même, il y a quand même des réactions de la part des étrangers. Il y a eu aussi quand même de très, très belles manifs avant la pandémie à Paris, avec énormément de monde quand même, de soutien quand même.
Oui, c'était la marche des solidarités, oui. Oui. C'est vrai. Mais concernant les personnes enfermées, quand même, ça, c'est pas très soutenu quand même.
Voilà, il n'y a pas de soutien efficace.
Non, il n'y a pas de soutien, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire?
Que les personnes luttent, elles, à l'intérieur.
Oui, voilà, sur les personnes qui luttent, en fait, la vie à l'intérieur d'un CRA, les personnes, elles sont en lutte à chaque instant. Parce que pour faire n'importe quoi, il faut s'adresser aux flics, pour se couper les ongles, se raser, etc. Donc, ils sont constamment dans le stress, en pression avec les flics, et ils sont en lutte, mais voilà, parce que c'est ce qui fait tenir debout, évidemment. Oui. Donc
c'est quand même un lieu de non-droit, je veux dire, quelque part ils seront en prison, il y a des règles. Là, quelles sont les règles? Ils ont droit à rien.
Alors,
il y a des règles, il y a un règlement intérieur.
Oui, évidemment, il y a un règlement intérieur, mais il n'y a pas effectivement d'occupation comme en prison. On est dans le désœuvrement le plus total. La nourriture est, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, etc. Donc effectivement, ça a été fait au départ pour maintenir les gens pour une semaine. Donc aujourd'hui, on est à 3 mois. Donc,
et voilà. Renouvelable, c'est ça que je...
Oui, parce que ça. Voilà, on rencontre des personnes qui ont fait 4 fois, 5 fois le CRA. Après, avec un peu de prison, etc. Des jeunes de 25 ans qui ont derrière eux, 18, 20 mois d'enfermement entre prison et CRA. Voilà. Et les luttes à l'intérieur, elles sont vraiment régulières. C'est-à-dire que voilà, les grèves de la faim, les automutilations, les départs de feu, etc. Donc ça, c'est... Voilà.
Des
évasions qui, de temps en temps, réussissent.
À Hamelot, là, ils n'ont pas été repris?
Non.
Tant mieux.
Bonne nouvelle.
Force. Sauver la belle. Donc voilà. Et donc c'est vrai que pour ça, c'est important d'aller soutenir, voilà, parce que c'est donné à tout le monde d'aller rendre visite au CRA. Pas besoin de demander la permission, enfin de remplir tout un dossier comme en prison. Il suffit d'avoir le nom du prisonnier ou de la prisonnière, y aller, et puis avoir une pièce d'identité. On peut discuter, faire un parloir avec une personne, lui amener des cigarettes.
Et là, on peut se mettre en contact avec vous. Moi, j'avais vu, on tape tout simplement Anticra Toulouse, trouve ça, c'est intéressant, quoi, puisque vous avez quand même une certaine expérience de comment ça peut se faire et tout ça. Parce qu'en effet, c'est quand même... Non seulement il n'y a pas de soutien, mais on n'en parle pas. À part quand ils sont visibles avec des tentes. Et voilà. Mais une fois qu'ils sont enfermés, ces lieux-là sont totalement inconnus quand même. du public.
Oui, oui, clairement. Clairement.
Et... Ce que peuvent faire aussi les personnes, c'est appeler. Appeler les personnes enfermées parce que les numéros de, ils ont des cabines de téléphone où ils peuvent recevoir des appels dans le CRA. Donc ça, vous pouvez trouver les numéros entre autres sur, sur notre blog et donc les appeler et du moment qu'ils ont le nom et le prénom de la personne, ils peuvent ensuite éventuellement lui rendre visite. Voilà, c'est une manière d'être solidaire et de les soutenir.
Ouais, d'autant plus que ça doit pas être si évident de ça de s'organiser à l'intérieur, parce que malgré le fait qu'on peut être enfermé pour longtemps, ça doit tourner quand même pas mal.
Exactement.
Donc c'est vrai que ça doit être un peu compliqué de
construire quelque chose.
Ouais, de construire quelque chose dans un peu de durée, quoi.
Ouais, ouais, ils arrivent quand même à faire des grèves de la faim. Ils arrivent à, il y a des choses quand même, mais effectivement la durée peut limiter, mais les gens se battent quand même.
Et par contre, ces lieux-là font partie de la contrôleuse des lieux d'enfermement. Là, peut les visiter. Je crois qu'elle fait des rapports là-dessus. Après, tous les élus, les députés peuvent demander à visiter. Donc, on peut aussi forcer ça pour essayer d'avoir des infos. Après, non, pas de journalistes, pas de reportage, rien.
Les élus, quand ils rentrent, éventuellement, ils peuvent amener un journaliste, un photographe avec eux. Mais effectivement, il faut un député, un sénateur. Ou sinon, effectivement, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté peut entrer. Ce qu'on voulait vous dire aussi sur la question de l'enfermement, c'est qu'on disait tout à l'heure que beaucoup de personnes sont enfermées, mais que ce n'est pas sur le point de diminuer, parce qu'il y a des projets de construction de CRA. L'État prévoit d'enfermer de plus en plus. Il y a des CRA qui vont être construits à Lyon, à Olivet, à côté d'Orléans, à Bordeaux, au Ménil-Amelot, en région parisienne. Donc il va y avoir plus de 400 nouvelles places d'ici 2022-2023. Et pour donner une idée, aujourd'hui il y a 1750 places et on va atteindre 2200. 2200 places pour enfermer les gens, pour les expulser. Pour donner une autre idée, c'est qu'entre 2017 et 2022, c'est un doublement des places dans les centres de rétention, dans les CRA. Voilà. Et qu'à côté de ça, il y a aussi le projet de faire tant que possible les audiences en visio, alors en amenant les personnes enfermées dans des salles d'audience qui sont construites à côté des CRA. On n'emmènera plus les prisonnières, les prisonniers au palais de justice, mais dans des algéco à proximité des CRA, ce qui fait faire des économies, on peut imaginer.
Il y avait déjà eu un projet comme ça sur le fait que les juges devaient venir sur place, faire comme un tribunal sur place, mais ça c'est pas...
Alors les juges, je pense, resteront au palais de justice.
D'accord, ils veulent pas se déplacer même.
mais ou peut-être qu'ils se déplaceront, mais ça nuit de toute façon à la publicité des débats, parce que la règle du procès, c'est que ça soit public. Et aller au palais de justice en centre-ville, c'est une chose. Aller en bordure du tarmac de l'aéroport, qui n'est pratiquement pas desservi par les transports et qui est loin, c'est autre chose. Donc ça va invisibiliser un peu plus la question du droit des étrangers.
Mais il me semble qu'ils ont essayé de faire ça pour la prison et que justement, ils n'ont pas pu le faire parce que du coup, ça reconnaît pas du tout les droits de la défense, en fait, et qu'ils ont essayé, je me souviens, je crois que c'était à Mont-de-Marsan, de faire des choses comme ça, et en fait, les avocats se sont insurgés, tout le monde s'est insurgé, et du coup, ils ont fait un pas en arrière, mais bon, il est fort à parier que pour les CRA, ce soit moins...
Pour les visioconférences, ils les gardent pour le terrorisme, je crois qu'ils y ont droit, donc ils vont faire un truc d'exception pour les étrangers, c'est ça, en fait, hein ? Oui.
Alors, ça a été testé pendant le Covid, pendant la pandémie. Pendant le confinement, ça a été testé dans plusieurs CRA. À Toulouse, les audiences étaient en visio, dans des conditions, mais c'était juste l'horreur, quoi, pour les prisonniers et prisonnières, parce qu'elles étaient dans une petite salle, elles n'avaient pas de contact avec leurs avocats, leurs avocates, qui étaient donc au palais de justice avec le juge. Ils étaient dans le bureau du juge, Donc le juge n'avait même pas sa robe, savait pas, donc le prisonnier ne savait pas qui était qui. Et derrière lui, il y avait les flics qui se bidonnaient, qui étaient morts de rire, avec un boucan pas possible. Donc ils n'entendaient rien du tout, en fait. Donc les témoignages des prisonniers concernant les audiences en visio, c'était juste l'horreur.
Et traduction aussi, est-ce qu'elle y est tout le temps
Oui, voilà. Alors même le traducteur, il était de l'autre côté, il était au palais, dans le bureau aussi, au centre-ville. Voilà, donc là, c'était exceptionnel pour le Covid, mais le projet, c'est de faire perdurer cette idée. C'est d'avoir, voilà, à Toulouse, c'est d'avoir une salle d'audience à proximité du CRA, comme ce que ça vient d'être dit, pour faire éviter que les flics fassent des balades entre Cornebarieux et le palais de justice. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est en stand-by pour l'instant, pour des histoires de terrain, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais,
oui, parce qu'ils sont obligés quand même de le faire à l'extérieur.
Exactement.
Puisque c'est public, on doit pouvoir s'y rendre. Ils ne peuvent pas le faire à l'intérieur des clôtures.
Voilà, c'est interdit de le faire dans la prison. Mais ils peuvent tout à fait trouver un terrain qui n'est pas très loin du CRA et qui permet à tout ce petit monde de la flicaille de tourner entre et de ramener les...
Et de faire une justice expéditive.
Voilà,
ouais. Juste un dernier mot sur les nouveaux CRA et ces nouvelles salles d'audience. C'est tout un business, en fait, parce qu'il faut les construire, il faut les aménager. Donc, c'est des gros marchés pour les entreprises privées de construction, des cabinets d'architectes, des entreprises de sécurité, de ménage, de restauration, etc. Il y a un très bon dossier à lire là-dessus, sur le blog d'Abba les CRA, qui ont énuméré tout ce qui se passait dans ce domaine.
Oui, ça fait marcher les affaires, quoi.
Exactement.
Puis on construit.
Oui, bah oui, tout le business des frontières aussi au niveau mondial, hein, la construction, les frontières, Frontex, hein, on sait quels sont les milliards qui sont dépensés là-dessus. Donc ça, il y a un vrai gros marché de l'industrie, comment on appelle ça, militaro-sécuritaire.
Oui, militaro-industriel.
Voilà, quand on pense tout cet argent, ouais. Ça servirait largement à accueillir les gens. Hein.
Voilà.
On pourrait facilement, et on dépenserait peut-être moins, ouais, à les accueillir qu'à empêcher d'arriver. Quoi.
Voilà, à sortir les personnes de la précarité, notamment. Ouais.
Voilà, donc
Tout ça sert bien aussi les affaires, parce que les personnes aussi sans papier, qui sont obligées de s'invisibiliser, corvéables, et peuvent justement travailler sans demander trop de...
Travail au noir.
Travail au noir, on connaît le système, donc tout ça, ça se tient bien.
Travaille au noir, toujours, on oublie, on a l'impression que c'est la personne qui travaille au noir. Non, c'est le patron qui embauche au noir, et on oublie toujours ça, parce que la personne, elle ne fabrique pas son travail, et donc c'est de l'embauche au noir, mais bon.
Voilà, donc les gens sont dans la peur de se faire expulser, de se faire arrêter, de se faire emmener au CRA, et puis bosse sans demander de compte, sans lutter pour... leurs droits, ou essayer d'avoir des salaires, ou sortir de la correcte, ou sortir de la précarité.
Et c'est pas impossible, puisqu'il y a eu des luttes. Hein. Il y a eu des luttes à Paris, il y a eu des luttes quand même, de sans-papiers, qui ont réussi quand même,
ouais,
et qui, même certains syndicats les ont soutenus, faut le faire, mais c'est eux qui sont partis, ou elles qui sont parties en lutte, qui ont réussi à avoir un peu de dignité et des papiers, quoi. Donc rien n'est impossible dans ce monde, et c'est bien pour ça qu'on essaie d'en parler peut-être à la radio.
Je ne sais pas si rien n'est impossible dans ce monde. Non, moi, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses pas possibles.
Non, c'est comme on parle, il faut y croire. On peut arrêter ça,
on peut avoir l'espoir, mais enfin, pour l'instant, c'est quand même pas...
Oui, parce qu'il y a des luttes qui aboutissent, quoi. C'est pour ça que je disais.
Oui, il y a des luttes qui... Tout à fait, oui, bien sûr. Là, d'ailleurs, la marche des solidarités va... Je crois que c'est le 21 août à Paris qui va faire une grosse manifestation pour commémorer Saint-Bernard. C'était l'année 1996.
Il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Ouais, voilà, où quoi, il y a eu des régularisations, effectivement. Donc, quoi, sauf pas... que là, on est quand même... Il faut être réaliste, là. On est quand même dans une phase quand même très, 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 très répressive et très, très compliquée pour les personnes sans papier, particulièrement. Donc oui, elle lutte, elle continue de lutter, mais c'est, pour l'instant, c'est pas... c'est dur.
Mais il faudrait du soutien, quoi. Et heureusement qu'il existe un collectif comme le vôtre. Ouais. Et ce qu'on disait, c'est que peut-être on se retrouvera d'ici quelques temps à cette antenne où vous viendrez nous parler de ce qui se passe dans la belle colonie française de Mayotte.
Ouais.
Où, là, alors là, c'est pire, c'est même pas le droit, c'est carrément du non-droit et à la chaîne, quoi.
C'est ça.
Donc on reparlera de ce que fait la France dans le monde, puisqu'elle rayonne partout dans le monde.
C'est ça.
On pourra peut-être en parler.
Très bien.
Merci beaucoup bien. D'humour ce soir.
Merci.
Merci, on fait une pause musicale. Merci.
Merci.
Donc on reprend la suite de l'émission avec, on avait dit qu'on vous reparlerait de la mutinerie d'Eton. Alors Eton, c'est, ça se passe, c'est en Savoie, Et il y a 5 détenus qui sont montés sur le toit du préau du centre pénitentiaire. Et en fait, à l'origine, cette action, c'était les conditions de détention, mais surtout la politique de la juge d'application des peines, qui est vraiment considérée comme trop sévère. Alors, bien sûr, les médias nous ont parlé de cette « mutinerie », entre guillemets, mais sans jamais nous dire quoi que ce soit des motivations des détenus. En fait, ils protestaient en partie contre le régime carcéral, qui est beaucoup plus strict que d'autres centres de détention, parce qu'en fait, à Eton, l'établissement est à la fois un quartier maison d'arrêt et centre de détention. Et comme on le sait, dans les quartiers des maisons d'arrêt, on l'a déjà dit à cette antenne, les conditions, que ce soit d'activité, de sortie, etc., ne sont pas du tout les mêmes que dans les centres de détention. Alors je rappelle à nouveau qu'une maison d'arrêt, ce sont des gens qui, en général, n'ont pas encore été jugés ni condamnés et qui sont en prévention, en préventive, avant leur jugement. Alors qu'en détention, les gens savent combien de temps ils doivent faire et peuvent et donc la détention entre guillemets s'organise. Donc là, la revendication unique des détenus, c'était de, ils réclamaient souvent un transfert dans une autre prison parce qu'ils pourraient alors là être suivis par un autre magistrat en charge de l'application des peines. Et d'ailleurs, le problème n'est pas nouveau. En 2016 déjà, un mouvement collectif avait éclaté au centre pénitentiaire. Et à l'époque, le rapport de l'inspection générale de la justice relevait que l'origine des incidents était multiple, mais qu'il s'expliquait, dans une large mesure, par une politique d'aménagement des peines jugée trop sévère par une grande partie de la population. Il semblerait que la situation n'a pas évolué depuis. Alors, les aménagements sont accordés au compte-gouttes, très souvent à la toute fin de condamnation, 6 mois ou 1 an avant la fin de peine, pour les plus chanceux. Ça, c'est un ancien détenu qui l'explique. Un avocat du barreau d'Albertville dit « J'ai eu des dossiers très bien ficelés, avec des avis favorables de tout le monde, même du parquet, et la juge d'application des peines a opposé un refus. » Il dit « Quand j'ai des clients qui sont placés ailleurs, je leur dis surtout « Restez là-bas, parce que ce n'est pas la peine de revenir ici, les conditions sont trop dures. » Dans le dernier rapport d'activité du service d'application des peines, on relève que sur 258 jugements rendus en 2019, 73 ont eu une mesure d'aménagement de peine. Alors ça fait 28% et c'est un taux qui est nettement inférieur à tous les autres centres pénitentiaires. Et en plus, on s'aperçoit que dans ces libérations conditionnelles accordées, sont prises en compte les libérations conditionnelles expulsion, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des étrangers qu'on fait sortir pour les expulser. Donc on voit que l'aménagement ne rentre pas dans la philosophie de cette juge d'application des peines. Alors face à des possibilités d'aménagement plus faibles qu'ailleurs, c'est le découragement pour les détenus. Souvent, les gars savent qu'ils vont essuyer un refus, baissent les bras, ils se résignent, ils ne demandent même plus. Chez les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, aussi, là, il y a un découragement. Les dossiers ne sont pas proposés. Il y a de l'autocensure, puisqu'on sait que ça va être refusé, etc. Les détenus n'ont plus confiance dans le système de réinsertion. Certains ne veulent même plus participer à des entretiens avec leurs conseillers d'orientation, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Alors, cette juge d'application des peines, dans son rapport 2019, dit « Ah oui, mais ça vient justement de ces conseillers dont les rapports ont beaucoup d'insuffisances, et notamment trop tardifs ou une baisse de qualité des projets proposés. » Donc, c'est elle qui juge des projets, n'est-ce pas, pour l'aménagement des peines. Alors face à cette situation, certains détenus espèrent être transférés parce qu'ils connaissent des gens incarcérés dans d'autres prisons pour des mêmes affaires ou des mêmes peines, etc. et qui sont déjà sortis. Donc plusieurs mouvements pour forcer le transfert vers d'autres centres de rétention où la politique des juges d'application des peines serait moins pire, comme par exemple à Saint-Quentin ou à Roanne, explique un détenu. Alors bien sûr, c'est un pari risqué selon le juge d'application des peines, parce que la personne pouvant non seulement ne pas se retrouver dans le bon établissement, mais surtout à cause de cette mutinerie ou cette faute disciplinaire, elle peut voir ses crédits de réduction des peines disparaître. Voilà, en attendant, Eton, la situation en matière d'aménagement, mine l'ambiance, comme ils disent. Ça se ressent sur le travail, les tensions palpables avec des détenus qui pourraient être corrects, mais comme ils savent qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils sortiront jamais, ça fait des tensions et des agressions. Donc je trouve que c'était intéressant quand même de signaler pourquoi les détenus manifeste, et on n'appellera pas ça une mutinerie, mais plutôt une révolte à Étang.
Et on va continuer avec les difficultés d'accès à l'aide juridictionnelle pour les prisonniers et prisonnières. Depuis la réforme de l'aide juridictionnelle qui est intervenue en décembre 2020, donc maintenant il y a une prise en compte du revenu fiscal de référence, des revenus mobiliers ou immobiliers. Bon, on n'a pas l'impression que ça concerne énormément de prisonniers quand on connaît la sociologie dans les prisons de France, mais en tout cas, ça a poussé certains bureaux d'aide juridictionnelle à exiger donc des prisonniers et prisonnières qu'elles fournissent des documents supplémentaires, alors qu'avant, il suffisait de produire un certificat de présence ou une fiche pénale qui était délivrée par l'établissement pénitentiaire pour obtenir l'aide juridictionnelle. Certains bureaux d'aide juridictionnelle comme ceux d'Angers, d'Auxerre ou de Lille demandent désormais donc de fournir un justificatif de la maison d'arrêt indiquant si le demandeur à l'aide juridictionnelle exerce une activité rémunérée et dans l'affirmative donc joindre les justificatifs de ses revenus ou encore de fournir la copie complète de l'avis d'imposition sur les revenus. Donc ces exigences qui sont un peu différentes d'un bureau d'aide juridictionnelle à un autre méconnaissent profondément la réalité de la vie en prison. Faute d'accès à Internet et parfois sans aide de la famille, et réunir les documents, ça relève du parcours du combattant ou de la combattante pour les prisonniers et prisonnières. Donc c'est quasiment insurmontable pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français ou l'écrit. Il faut quand même rappeler qu'il y a 6% des personnes incarcérées qui ne parlent pas français et 11% qui sont illettrées. Donc l'exigence de justifier des revenus gagnés en détention en plus paraît complètement décalée lorsqu'on sait que les prisonniers ayant la chance d'accéder à un emploi, ce qui représente à peu près un prisonnier sur 4, ne bénéficient pas de contrat de travail et sont rémunérés entre 20 et 45% du SMIC lorsqu'ils ne sont pas payés à la pièce. Donc on peut dire qu'ils auraient automatiquement accès à l'aide juridictionnelle. Donc cette demande de justificatif alourdit inutilement et par conséquent quand freine l'accès aux droits des personnes détenues, constate Mathieu Kinkis, qui est un avocat qui est membre de l'A3D, l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus. Un avis que partagent même les bureaux d'aide juridictionnelle, qui disent qu'avec l'entrée en vigueur de la réforme, on avait commencé à demander aux détenus des justificatifs de ressources avec l'avis d'impôt sur le revenu. Ça a été très compliqué. Les personnes n'arrivaient pas à les fournir. Du coup, on a arrêté. On est revenu à l'ancien système. Donc, ce que dit une salariée du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon, mais bon, c'est pas du coup le cas dans tous les bureaux d'aide juridictionnelle. Du coup, ça crée encore des disparités d'accès entre les prisonniers suivant qu'ils sont incarcérés dans telle ou telle région de France. Donc, c'est quand même vraiment pas la joie.
Voilà, et on va continuer sur les conditions d'enfermement à la française. En fait, là, c'est la mexicaine à la française. Alors, pour vous dire, une mexicaine dans le jargon policier, c'est quand les flics arrangent les faits à leur manière pour faire tomber quelqu'un ou protéger un des leurs, quitte à violer la loi. Pratique difficile à constater, la plupart du temps, en cas de brutalité policière, c'est parole contre parole, et là, c'est toujours le représentant de l'État qui a le dessus. Alors, pour quelqu'un de défavorablement connu des services de police, fermez les guillemets, expression vide de sens, symptomatique du travail de discrédit systématique de l'institution à l'encontre des victimes de violences policières, ben là, lui, il n'a aucune chance. L'usage du délit d'outrage et de rébellion en est l'exemple flagrant. Plusieurs affaires récentes ont apporté un éclairage rare sur cette pratique. Pour Adnan, qui a perdu un œil suite à un tir de LBD, les enquêteurs sont allés jusqu'à espionner leurs propres collègues du jamais vu. Et plus rare encore, les éléments de l'enquête ont filtré dans la presse, mettant crûment à jour les rouages de la mexicaine. Alors c'était en février 2020, à Brunois, dans l'Essonne, dans le quartier des Hauts-Mardels. Adnan, 19 ans, est atteint au visage par un tir de LBD de la BAC. Il perd l'usage de l'œil, grave fracture du crâne, et à l'hôpital, même son pronostic vital est engagé. La police parle d'émeute, l'agent de la BAC qui a déposé une plainte pour des violences le lendemain des faits accuse le jeune de lui avoir jeté quelque chose. En réalité, Adnan, qui discutait calmement avec des amis quelques instants auparavant, ne présentait aucune menace. Et il faudra les images de la vidéosurveillance contredisant la version policière pour que le tireur assermenté soit mis en cause par la justice. L'enquête, basée notamment sur des écoutes réalisées sur les téléphones et les applications de messagerie des policiers, filtre dans la presse et révèle les coulisses d'une Mexicaine. En suivant les conversations, on découvre comment les policiers s'accordent sur la version des faits, se conseillent en vue des auditions, interviennent pour modifier le dossier administratif. D'impulsif, l'agent de la BAC devient soucieux d'agir en toute sécurité et en respectant la déontologie nécessaire. Ils œuvrent aussi pour obtenir la levée du contrôle judiciaire, trouvent une parade pour que le policier puisse continuer de toucher son salaire. Et tout cela tout au long de la chaîne hiérarchique, en passant par le directeur départemental de la sécurité publique jusqu'au directeur général de la police nationale. Donc c'est cela qu'on appelle une Mexicaine. Je crois qu'on va passer à l'annonce parce que l'émission se termine. Ah pardon, si j'ouvre pas le micro, tu pourras pas faire l'annonce.
Et non, et ben on va terminer donc avec une annonce qui de l'association Mutsvist 11, donc qui organise un festival des luttes populaires les 10, 11, 12 septembre 2021. Donc ça se passe à Armisson, dans l'Aude, c'est pas très loin de Narbonne. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent, notamment le vendredi 10 septembre, il y a une manifestation Lucridal contra l'Umal Gouverne. Je sais pas si je prononce bien, parce que je suis pas trop spécialiste de l'occitan. Donc c'est une manifestation convergence des luttes sur le parvis du théâtre. Le samedi 11 septembre, il y a notamment à 16h15, pendant le festival, donc, un débat autour de la stigmatisation des quartiers et des musulmans musulmanes avec le collectif narbonnais Passons-nous. Et le dimanche 12 septembre, il y a à 11h30 des initiatives narbonnaises d'aide aux sans-papiers, donc avec des collectifs de migrants et sans pour un toit. Et à 14h30, donc toujours le dimanche 12 septembre, donc les Gilets jaunes, 3 ans de révolte, et on est là avec le collectif du 17 novembre. Donc ça se passe donc vendredi, samedi, dimanche 10, 11, 12 septembre, Olivette et Jardin de Langeais à Armisson, à côté de Narbonne.
Voilà, il y a camping, accueil et tout ça, c'est pour vous préparer. Et Bruit de Tôle se termine. On se retrouve exceptionnellement dans 3 semaines. Ça sera le 9 septembre en direct sur cette même antenne à Canal Sud, le jeudi de 19h à 20h. L'émission est rediffusée le vendredi de 17h à 18h. Mais vous pouvez aussi nous réécouter sur le site canalsud.net à partir de la semaine prochaine et réécouter les anciennes émissions. Tout simplement, vous tapez canalsud.net. Vous pouvez nous écrire ici à la radio. L'émission, c'est Bruit de Tôle au pluriel. Et c'est Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Ou bien nous envoyer un petit mail sur notre adresse Bruit de Tôle, bruit au pluriel, de Tôle, T-O-L-E-S, @no-log.org. Voilà, et bien que dire pour terminer. Bon courage à tous ceux et toutes celles qui sont enfermés malgré ce temps et malgré le fait que on est quand même un petit peu mieux dehors. Et on espère bien, moi j'y crois, qu'un jour ou l'autre, on arrivera à ouvrir toutes ces portes et toutes ces fenêtres et enlever nos chaînes. Bon courage. Merci, au revoir.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse, c'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés. Quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.